Bonjour, merci à vous deux d'accepter de répondre à nos questions.
Bonjour.
On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, puisqu'on va passer directement à vos sources d'inspiration pour For Life.
Moi, sur le scénario, c'était une envie de... C'était la conséquence d'un questionnement que je me posais. J'étais sur l'écriture d'un roman au moment où j'ai eu l'idée de For Life. Un roman qui s'appelle Tout foutre en l'air, que j'ai publié aux éditions Actes Sud, et qui parle d'un duo d'ados qui décide de se suicider ensemble. Et au dernier moment, un des deux décide de ne pas sauter. Et donc, tout mon questionnement, c'était qu'est-ce qui, dans la vie, nous rend suffisamment vivants et nous donne des raisons de nous relever quand tout nous semble terminé. Et j'avais ce questionnement-là, et je suis allé à ma première Japan Expo il y a 4-5 ans. Et en voyant les cosplayers, j'ai trouvé ça incroyable, cette idée de gens qui vont consacrer du temps, de l'énergie, de l'argent pour faire vivre une passion, qui vont travailler pendant des mois sur un costume pour incarner un personnage qui va les rendre plus forts, plus courageux, parce qu'il faut du courage pour affronter les rires dans le RER sur la ligne B quand on se rend à la Japan Expo. Effectivement, des costumes qui vont les aider à vivre plus fort. Et pour moi, c'était vraiment le point de départ de cette histoire. Que j'avais envie de raconter, voilà, de jeunes filles qui vont porter des costumes, qui vont avoir un accident de bus. En se réveillant, ces costumes vont leur donner des pouvoirs qui vont les aider à affronter une situation bien trop grave et bien trop importante pour elles. Après, sur les énergies qui m'ont inspirée, il y a un manga qui est paru chez Glénat, qui s'appelait Lollipop or a Bullet. Qui racontait l'histoire d'une jeune fille qui est nouvelle dans une école, qui a des taches sur les jambes et qui raconte à tout le monde qu'en fait c'est parce que la nuit elle se transforme en sirène. Et en fait il y a un twist à un moment donné, on découvre que la vérité est pas du tout fantastique et on bascule vers le récit de l'intime. Et pour moi c'était une vraie source d'inspiration, puisque mon envie c'était de partir d'un climat un peu fantastique et après de le twister pour amener les lecteurs à quelque chose de moins anecdotique déjà et de un questionnement peut-être plus profond, plus dense. Voilà pour mes inspirations à moi.
La première fois que j'ai lu le script d'Antoine, enfin le concept qu'il m'a envoyé, je pensais tout de suite à Madoka Magica, avec les Magical Girls, mais dans un sens plus torturé par rapport aux autres Magical Girls. Puis en lisant son script intégral, je me suis aperçu que c'était pas du tout ça. C'était plus une sorte de course-poursuite contre la mort, sorte de survival horror. Alors je me suis plus inspiré de ce que je connaissais de plus proche, par exemple du comics Walking Dead, et de l'approche graphique qu'il a entre le contraste noir et blanc qu'il met en place, qui donne une sorte d'ambiance très sombre, très macabre, et donc je me suis inspiré graphiquement de ce comics.
D'accord. C'est vrai que ce qui est étonnant au premier abord quand on lit le manga, c'est qu'au début ça a l'air assez simpliste, et plus en fait on avance, plus on se rend compte que le propos est dur et sombre et fait quand même appel à une certaine maturité du lecteur. Du coup, je voulais savoir à qui s'adressait ce manga finalement et quel message vous vouliez faire passer.
Bah, je pense que c'est un manga qui s'adresse à tout le monde. C'est aussi la richesse qu'on a nous en tant qu'auteurs français de manga, c'est de pouvoir proposer des œuvres un peu hybrides qui ne sont pas forcément destinées à un public précis, comme ça peut l'être. Ça peut être le cas dans les mangas japonais et pur et dur. Moi, mon envie, quand j'ai fait du manga, c'était de lier deux casquettes. C'est qu'à la base, je viens du roman, je fais aussi de la BD plutôt franco-belge, on va dire, et que j'avais envie de trouver un moyen de relier les deux. Et pour moi, le support, le média qui réunissait à la fois la puissance littéraire d'un texte, c'est-à-dire l'incarnation totale qu'on peut avoir d'un personnage, et la fulgurance de l'image, le choc que peut provoquer une image, c'était le manga. C'était une densité que je trouvais hyper intéressante, un volume que je trouvais pertinent, et du coup c'était hors de question de faire un manga qui me permettait pas d'aborder un questionnement fort comme peut permettre de le faire un roman. Pour moi, la question principale dont j'aimerais que les lecteurs ressortent après la lecture de ce manga, alors c'est un manga en 2 tomes, donc quand on a lu le premier, on n'est pas arrivé au bout de cette question-là, mais quand on a les 2 tomes devant soi, c'est bah voilà, qu'est-ce qui vous rend vivant et qu'est-ce qui vous donne chaque jour une raison de vous battre. On sait que le monde dans lequel on vit n'est pas facile. On sait qu'on a parfois tendance à vouloir laisser tomber, à pas vouloir affronter les choses, à pas vouloir à se laisser submerger par des par des choses qu'on croit plus fortes que nous. Et l'idée, c'est au contraire de dire aux gens, vous avez forcément en vous quelque chose qui va vous dire, bah non, en fait, tu peux aller encore plus loin.
D'accord. Et justement, donc, dans ce premier tome, on voit qu'il y a une de vos héroïnes qui prend progressivement le pas sur les autres. Est-ce que ça va twister dans le deuxième tome ou est-ce que les autres vont avoir droit un petit peu à leur...
Vous voulez des scoops. Bah, je crois qu'on était très clairs tous les deux sur le fait qu'on avait envie que Sarah soit l'héroïne de ce manga, qu'elle soit le personnage central. C'est aussi pour ça que Vin la met, je pense, plus en avant aussi dans les cases, parce qu'il est important qu'elle prenne de la place. Ce manga, c'est avant tout l'histoire de Sarah, plus que l'histoire de quatre héroïnes.
D'accord. Du coup, là, on va passer à la partie plus technique. On souhaitait savoir si vous vous connaissiez déjà avant ce projet ou si c'est Glénat qui vous a présenté.
Non, c'est une amie commune. Je ne sais pas si j'ai le droit de la marque.
Qui était community manager d'une marque de figurines qu'on aime beaucoup.
Exactement. Donc, les amis en relation. Du coup, Antoine m'a présenté son synopsis qui m'avait intéressé. Et du coup, on a travaillé ensemble sur un dossier qu'il a envoyé à plusieurs éditeurs. Et c'est Glénat, au bout de 15 jours, qui a répondu.
En fait, on a envoyé le manuscrit par la poste. Ça fait toujours un peu légende urbaine de parler du manuscrit envoyé par la poste, mais pour le coup, c'est vraiment ce qui s'est passé. Et 15 jours plus tard, effectivement, comme l'a dit Vin, on a eu un appel de la personne qui est devenue aujourd'hui notre éditeur sur cette série et sur les prochaines.
D'accord, ben c'est magnifique, on peut faire une magnifique transition. Du coup, comment ça se passe la relation de travail entre l'éditeur et votre équipe? Comment ça...
Je réponds.
Vas-y.
D'accord, du coup, Antoine travaille sur le scénario, on travaille ensemble si j'ai des choses à dire ou non. Après, le scénario, quand il est validé par Antoine et l'éditeur, il me renvoie. Je travaille sur storyboard, que je fais valider. S'il y a des corrections à faire, je le fais. Puis après, quand le storyboard est validé, je commence l'ancrage et les finitions. Puis, j'envoie chapitre par chapitre, en fait. Puis quand on assemble tous les chapitres ensemble, on a le tome final. Et s'il y a des corrections à faire, en fait, c'est une période où il y a des corrections à faire. Et quand on finit les corrections, on peut envoyer un peu.
C'est vraiment un travail de synergie entre moi, Vin et l'éditeur. L'idée, c'est qu'on fait un livre ensemble, donc il faut que ce livre, ce soit à la fois ma vision de For Life, la vision de Vin et la vision de l'éditeur. Donc il faut qu'on soit dans l'échange, dans la confrontation, dans le dialogue, et c'est ce qui fait que c'est un livre qu'on a aujourd'hui envie de défendre tous ensemble et dans lequel on a envie de s'impliquer pour la suite.
D'accord. Du coup, combien de temps à peu près prend la réalisation d'un chapitre?
Sur la partie scénario, ça va être en prenant en compte mon travail, les retours de Vin, les retours de l'éditeur et la synthèse de tout ça, ça va être plusieurs semaines, puisqu'il y a tout un temps de discussion, de validation, d'échange, en fonction du temps de chacun. Et puis après, sur le dessin.
Plusieurs mois.
Ouais.
Je peux en calculer combien de temps, mais beaucoup.
C'est la densité qui fait le volume de travail, c'est qu'on est sur des supports qui font quand même 220 pages sur For Life, donc on est sur une masse de choses à mettre en mouvement qui sont quand même importantes.
Justement, tous les deux, vous travaillez sur plein de projets simultanément. Comment vous faites pour ne pas vous perdre, vous mélanger?
C'est une question d'organisation.
Ouais. Pas pour moi, je suis focus sur For Life, et je ne peux pas travailler sur autre chose.
Ça, c'est un peu le privilège du scénariste, c'est cette capacité. Enfin, nous, comme on a un travail qui est plus rapide aussi, peut-être, puisque le dessin, par définition, est un acte qui est quand même plus lent, plus technique. Donc, c'est vrai que moi, j'ai la capacité de pouvoir travailler de manière tronçonnée sur plein de séries à la fois, ce qui est une condition sine qua non, sinon je ne pourrais pas tenir tous mes engagements. Mais Vin, c'est vrai qu'il est très concentré sur un projet à la fois et c'est marrant parce que moi je passe mon temps à sortir et à re-rentrer dans les projets, donc quand on en parle c'est toujours des temporalités totalement différentes, c'est plutôt rigolo.
Parfois j'ai peur quand je te parle du projet, si tu t'en souviens ou non de cette scène.
Ouais, donc c'est toujours des petits réglages entre nous. pour voir où chacun en est.
D'accord. Ah, du coup, pour Vin plus particulièrement, on a vu que tu avais fait plusieurs, tu as participé à plusieurs concours, aussi bien en France qu'au Japon, et pour des projets personnels. Et du coup, pour finalement ce projet, pourquoi passer en duo?
Alors, en fait, on a signé avant le concours, et du coup, je me suis engagé pour finir ce projet-là avant. Et je ne peux pas en dire grand-chose d'autre que pour les autres projets, puisque je suis vraiment à 100% sur For Life, et dès que j'ai fini, je peux en parler aux autres auditeurs.
Je crois qu'on a eu beaucoup de chance aussi de rencontrer Vin avant toutes ces étapes-là. Il y a eu le tremplin Kiyun, il y a eu le tremplin Magic.
Beaucoup de trop.
Il saute en permanence. C'est le kangourou du monde du manga. Et c'est vrai qu'on a eu beaucoup de chance parce que je crois qu'on l'aurait rencontré avec l'éditeur quelques mois plus tard. Vin aurait été débordé par tout ça. Et ça a été une chance vraiment, en termes de timing, que les choses se soient faites dans cet ordre.
J'étais quand même un peu débordé pendant.
Déjà, mais en tout cas, ça a permis que For Life trouve sa place dans son agenda.
D'accord. Est-ce que vous avez des conseils pour les jeunes qui veulent se lancer pour devenir mangaka professionnel en France?
Oui, j'en ai plein. N'essayez pas, c'est trop dur.
Il dit ça parce qu'il veut garder le monopole des éditeurs. C'est ça. Moi, si je peux donner un conseil, c'est de ne pas chercher à imiter. Quand on est fan de quelque chose, on a tendance à vouloir reproduire ce qu'on aime. Et je pense que c'est pas ce que les éditeurs recherchent forcément. Ils recherchent pas un Dragon Ball 2.0, ils recherchent pas un One Piece 2.0. Ils recherchent avant tout des œuvres originales avec des visions d'auteurs, des visions de créateurs. Et je crois que c'est ça qui vous différenciera de ce qui existe. C'est vraiment d'arriver avec votre vision des choses. Même si parfois ça vous semble en décalage avec ce qui existe, c'est pas plus mal parce que finalement vous allez peut-être créer quelque chose de nouveau qui va inspirer à son tour d'autres personnes. Et c'est vraiment ça, moi, mon conseil, c'est vraiment de toujours garder en tête qu'il faut être reconnu pour qui vous êtes et pas forcément pour ce que vous aimeriez donner comme image de vous et de ce que vous aimez.
Moi, je pense qu'il a à la fois tort, qu'il a à la fois raison. Il y a plusieurs... Ça dépend, en fait, de ce qu'on veut faire. C'est un embranchement qui est tout à fait possible. Il y a aussi d'autres embranchements. Peut-être la personne qui veut vendre. Peut-être que l'autre personne il veut juste faire connaître ses livres, juste avoir des lecteurs. D'autres qui veulent juste reconnaître, avoir une reconnaissance de ses pairs. Il y a tellement d'embranchements. Ça dépend vraiment de ce qu'on veut faire. Dès qu'on sait ce qu'on veut faire, on cherche l'étape qui nous mènera à ce qu'on voudrait apporter ou ce qu'on voudrait montrer.
Après, la clé de tout ça, c'est le travail. Exactement. C'est de passer du temps. C'est pas forcément facile de passer beaucoup de temps, j'imagine, comme fait Vin, enfermé, à travailler sur des planches toute la journée, toute la nuit aussi, parce que Vin, il dort pas beaucoup.
C'est pas une légende urbaine de pas dormir.
Ça existe vraiment. C'était
étonné, j'ai vu ça, je fais « Ah, machin, quel mannequin a 3 heures de sommeil ?» Je fais « Non, c'est pas possible, je vais faire ça. » Et après, « Ah, mais finalement, j'ai fait ça. »
Et il arrive. Et tu le rencontres à la fin du bouclage, et il est tout blanc, il a perdu 20 kilos. Et voilà. Mais effectivement, c'est beaucoup de travail, il faut en avoir conscience. C'est génial de vivre le rêve qu'on s'est fixé. Je crois que devenir mangaka, c'est quelque chose qui fait... Moi, en tout cas, ça m'a fait rêver pendant très longtemps. Ça me fait encore rêver aujourd'hui. Et pourtant, maintenant que je connais l'envers du décor, ça me fait aussi rêver. Mais je pense que c'est important d'avoir conscience que c'est aussi beaucoup de travail et de l'investissement. Et une fois qu'on a compris ça,
c'est cool. Je rebondis justement dessus. Beaucoup de travail, c'est... La plupart du temps, les jeunes personnes qui veulent devenir mangaka ont leurs idées, leurs histoires dans la tête, justement, mais ils ne concrétisent pas directement sur papier. Et c'est ça le travail, en fait, c'est de pouvoir vraiment travailler dessus, concrètement.
Matérialiser la matière.
Voilà, c'est ça.
D'accord. Une question. D'accord. La question de fin de Just Focus. Est-ce que vous pouvez nous donner votre top 5 de vos mangas ou auteurs préférés?
Ah, c'est super dur, là, tout de suite. On peut te donner un top 100, si tu veux.
Non, 5.
Un top
5.
Ben, moi, je n'aurais pas en donner 5, mais je t'en prie.
Déjà, mon auteur fétiche, c'est Togashi. Donc j'ai top 1 Hunter Hunter, top 2 Yu Yu Hakusho. Alors pour la suite, sans doute Slam Dunk. En français c'est I Génération Basket par Asada. Et en cinquième, on va dire pile ou face. Non, je sais pas vous donner un titre en taille. Non, je plaisante. C'est vrai que c'est dur.
C'est dur, hein. Bah, je vais donner son cinquième alors. Ça va être, je vais m'incruster.
Vas-y.
Moi, alors ça fait très cucu, mais j'étais méga fan des œuvres de Clamp. Voilà, X, RGVEDA, c'est des choses qui m'ont vraiment inspiré.
Quelle œuvre? Il faut choisir. Après, je parle.
Alors, il y a une œuvre qui n'a pas forcément été la plus connue de Clamp, mais que moi j'ai beaucoup aimé, qui était Magic Knight Rare Earth. Et qui arrivait à un moment de mon adolescence où je trouvais ça cool qu'on puisse monter sur la tour de Tokyo, être téléporté dans un monde parallèle et vivre un destin qu'on ne s'attendait pas à vivre.
Donc, et bizarrement, ce sont des Magical Girls.
Et bizarrement, ce sont des Magical Girls. Peut-être qu'il y a un truc à creuser.
Et le cinquième, Brandon Demi, chez Glénat. Très bon manga, nouvelle édition, superbe.
Bien. Ben, je vous remercie.
Merci beaucoup.